je m'appelle Kumar Fatima. J'ai été malade, j'ai eu une hépatite A virale fulminante et à la suite de ça, je devais être greffée. J'ai été greffée une première fois à l'âge de 13 ans, le jour de mon anniversaire. J'ai été mise sur une liste, et c'était une longue liste. J'ai été mise la première vu que j'allais mourir dans les 24 heures. Ils ont trouvé un foie d'urgence d'une accidentée en Allemagne qui n'était pas compatible à 100%. Ils pouvaient juste m'aider encore à gagner des mois, peut-être des années de vie. Et bon, j'ai tenu avec pendant 6 ans. Et à la suite de ça, j'ai dû me refaire greffer. J'ai dû attendre, je pense, plus ou moins 6 mois.
Avec un organe pas totalement compatible, des listes d'attente parfois longues, l'histoire de Fatima n'est pas un cas unique. La demande dépasse largement l'offre, ce qui crée des failles dans le système de don d'organes. Le comité consultatif de bioéthique a tenté de déterminer s'il est acceptable de faire commerce de certaines parties du corps prélevées du vivant d'une personne. Ils ont rejeté une libéralisation complète du marché du corps humain, mais n'excluent pas définitivement toute commercialisation. Chez les médecins, la vie semble beaucoup plus tranchée. Docteur Bourgeois, médecin responsable du conseil de transplantation de l'hôpital Erasme.
Personne ne peut vivre sans son foie, sans son cœur. Par contre, on peut toujours penser qu'un sujet sain pourrait donner, moyennant argent, un de ses deux poumons ou un de ses deux reins. Je pense que ce serait vraiment une dérive fort grave que d'en arriver jusque-là, parce que ceux qui s'avéreraient pouvoir être des donneurs seraient sans doute des gens qui ont énormément besoin d'argent.
Cela pourrait faire prendre des risques aux receveurs. Docteur Delbar, chef de clinique.
Dans un contexte de sécurité sanitaire, je pense qu'à partir du moment où on a des patients donneurs qui se font rémunérer, je pense qu'on n'est pas à l'abri de patients plus à risque.
Le président de l'Association nationale des greffés cardiaques et pulmonaires, Eugène Bayard, s'inquiète du sort des donneurs provenant de milieux défavorisés qui pourraient être attirés par l'appât du gain.
C'est que ces gens ont des séquelles par la suite. Ils ne sont pas soignés. Ils ont gagné quoi ? Un peu d'argent, et au bout d'un an, c'est dépensé, parce qu'ils sont dans la misère. Et puis, ils sont dans la misère complète, parce qu'ils n'ont plus qu'un organe. Et peut-être mal soigné, ils en mourront peut-être. Et puis, médicalement, c'est certainement pas autant aseptisé comme en Europe. Il est vrai que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et qui sait, son épouse ou un de ses enfants, qui va mourir, et qui ne sait pas attendre après un organe, ben, il va faire... Il va peut-être mieux essayer les terres pour essayer d'avoir cet organe.
Si dans certains pays, il est envisageable de payer pour se procurer plus rapidement un organe dont l'origine est douteuse, ce n'est pas le cas en Belgique. En Europe, le système est protégé par un organisme central, Eurotransplant. Il gère la liste d'attente des receveurs et garantit la traçabilité des donneurs et receveurs.
Le fait de donner un bakchich ne sert à rien. Les patients sont mis tous sur une liste avec des priorités médicales et aucune priorité d'argent. Et même un médecin qui recevrait de l'argent pour mettre, entre guillemets, son patient plus haut dans la liste de transplantation, ne peut rien faire. Il n'a aucun moyen de modifier l'ordre dans lequel se trouvent les patients.
La transparence du système belge ne peut par contre rien faire envers les Belges qui partent se faire transplanter à l'étranger.
Certains transplantés belges se sont fait transplanter dans d'autres pays moyennant argent. Ils ont été dans l'ensemble probablement bien opérés et ils reviennent ici tout à fait normalement pour leur suivi médical. Donc là aussi, il y a une grave dérive et il faudrait empêcher que des gens évidemment riches puissent partir ailleurs pour avoir un organe du bon groupe sanguin et bien frais, puisque j'imagine que les donneurs sont probablement des jeunes gens.
Docteur Bourgeois constate pourtant que certains malades, même en Belgique, essayent de contourner le système.
J'ai vécu ici des cas donc de gens qui venaient pour une transplantation de foie. Ils venaient avec un jeune, soi-disant de leur famille, qui était tout disposé à leur donner la moitié de son foie. Quand on creusait un peu, et même pas très loin, on se rendait compte que c'était un jeune homme vraiment pas riche du tout, qui avait accepté contre rémunération de se faire passer pour le neveu de la dame qui devait être transplantée. C'est refusé.
Pour les membres de l'association des transplantés, il a fallu suivre la voie traditionnelle, faute de moyens.
J'aurais pas pu. On sait impayable. Il est vrai qu'on peut y penser. Sinon, c'est impayable pour le commun des mortels. C'est pour ça que je dis bien, il faut être riche pour pouvoir se permettre d'aller ailleurs acheter un organe.
À la différence des grands organes, on constate que pour les gamètes, les choses sont un peu différentes. Si la loi belge interdit tout commerce de gamètes, il existe toutefois des compensations financières pour les donneurs. Docteur Delbar, chef de la clinique de fertilité, insiste sur le fait qu'il ne s'agit pourtant pas d'un commerce.
On peut vraiment parler de compensation parce que ce qu'on offre par exemple chez nous à une donneuse d'ovocytes est une compensation financière de 300 euros et honnêtement c'est vraiment pour lui payer son parking, ses déplacements et on ne considère pas du tout qu'il s'agit d'une rétribution. Pour ce qui est d'un don de sperme, on a aussi une compensation de l'ordre de 50 euros. Et je pense que dans la plupart des hôpitaux belges, on a le même ordre de grandeur en termes de compensation.
Faudrait-il changer les choses ?
Je pense que c'est bien de laisser les choses non rétribuées et de ne pas entrer dans une dynamique commerciale. Aussi pour avoir une motivation peut-être des candidats d'honneur différente de celle de l'argent et des candidats a priori plus sûrs.
Il faut toutefois reconnaître toute la symbolique du don de sperme. Même si l'intervention est moindre que celle pour un don d'organes, le don d'ovocytes est tout aussi contraignant.
Un don d'ovocytes, c'est un traitement hormonal avec des prises de sang, des échographies pendant 2 semaines. Ces traitements hormonaux, ce sont des injections quotidiennes, donc c'est pas rien. Et puis, il y a quand même une petite salle d'eau pour prélever les ovocytes avec une anesthésie. C'est vrai que les risques sont faibles, mais ça n'est vraiment pas banal non plus.
Pourtant, le commerce d'organes de gamètes est courant dans d'autres pays.
Aux États-Unis, il y a des donneuses qui se font payer... on est donc parfois de l'ordre de 25 000 à 50 000 euros, donc on est tout à fait dans un autre ordre de grandeur.
Gamètes ou organes durs, les médecins s'accordent pour dire que leur commerce ne serait pas une bonne chose. Ils craignent les éventuelles dérives qu'ils pourraient susciter, tout comme Fatima, notre témoin transplanté.
Moi, personnellement, vendre un organe, je pense pas. Parce que pour moi, ça doit être un don, ça doit être un acte de générosité. Ce qui me fait peur, c'est justement que le commerce, il y a le marché noir, qu'il y ait tout ça autour, et qu'on en fasse vraiment qu'un commerce. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui se rendent malades au détriment des autres. Je ne peux pas, moi, vivre avec ça. Déjà, c'est difficile de savoir comme ça qu'il y a une personne qui a été morte pour donner un organe, pour que moi je puisse vivre. Alors si en plus la personne est contrainte, ou une personne qu'elle soit contrainte à être malade pour que moi je puisse être en bonne santé.
Malgré tout, lorsque l'on creuse un peu, on constate que les avis des personnes ayant subi une greffe sont moins tranchés.
Lorsque vous êtes devant la transplantation, je crois qu'on s'en fiche éperdument de savoir d'où vient l'organe. Parce qu'on vous dit, demain, vous êtes là, vous n'êtes plus là, vous acceptez, vous n'acceptez pas la transplantation. On dit beaucoup de considérations, mais quand on est devant un fait établi, on change beaucoup d'avis.
Lorsqu'on est devant le fait et qu'on sait qu'on va mourir, d'où qu'il vienne du moment qu'on a une transplantation, on serait bien content, mais je pense que déontologiquement, il faut respecter, et encore une fois, c'est impayable. L'avoir reçu, ça c'est un don du ciel.
Tout comme le comité de bioéthique, Fatima, après réflexion, ne rejette pas un éventuel commerce, mais uniquement avec une réglementation stricte pour éviter l'exploitation des faibles.
Mais si maintenant, c'est vraiment surveillé, s'il y a une loi spécifique par rapport à ça, si c'est certaines personnes qui peuvent donner et pas d'autres, là oui, si c'est bien encadré, je suis pour.
Tout comme le comité de bioéthique, Fatima, après réflexion, ne rejette pas un éventuel commerce, mais uniquement avec une réglementation stricte pour éviter l'exploitation des faibles.
Je pense qu'il faut vraiment veiller, faire tout ce que l'on peut pour qu'il n'y ait pas de possibilité de donner une partie de son corps vivant.
Plutôt que de faire un commerce d'organes, c'est d'essayer d'améliorer la loi et d'apporter des contreforts au médecin lorsqu'il doit décider de prélever, lui donner les autorisations adéquates.
La loi belge mentionne que tout le monde est susceptible d'être donneur. Pourtant, déontologiquement, les médecins ne prélèvent jamais d'organes sans l'accord de la famille du défunt. La meilleure solution pour améliorer le système est d'inciter les gens à se rendre à la maison communale pour marquer leur accord à un prélèvement en cas de décès. Que ce soit les patients ou le corps médical, tous s'accordent pour dire qu'un commerce d'organes doit être évité, car il ne serait pas tolérable d'un point de vue éthique.